Bonjour, bienvenue à tous dans ce cours MVA qui sera dédié au graphisme à l'aide de HTML5 et grâce aux balises SVG, Canvas 2D et WebGL. Donc nous allons voir tout ça ensemble pendant cette petite demi-heure d'introduction. Donc je me présente, je m'appelle David Rousset, mon alias Twitter est @davrous. Pour me faire sur Twitter, venir me poser des questions. Je suis ce qu'on appelle un évangéliste technique. Je suis spécialisé fan d'HTML5 depuis pas mal de temps maintenant, depuis à peu près Internet Explorer 9. Je suis responsable, j'ai la chance d'être responsable du pôle jeux vidéo sur les applications Windows Phone et Windows Store. Donc ça consiste à suivre des studios de jeux pour les accompagner la migration d'applications qui viennent d'autres plateformes vers la nôtre ou de démarrer directement sur la nôtre. Donc que ce soit des studios indépendants ou des gros studios de jeux. Et j'ai la chance aussi d'être le co-auteur du moteur de jeu WebGL avec mon ami David Catu, qui s'appelle Babylon.js, qui est un moteur open source sur lequel on passe énormément de temps et j'aurai l'occasion d'y revenir sur l'un de ces modules. Alors, pour parler un petit peu de moi, moi je suis passionné du développement depuis tout petit. Vous pouvez me retrouver d'ailleurs sur mon blog blogs.msn.com/davrous. Et j'aime également la musique, je suis compositeur à mes heures perdues, à l'aide de merveilleux trackers, pour ceux qui ont connu la bonne époque sur Amiga et Atari ST. Et j'utilise donc SoundCloud pour diffuser une partie de ce que je compose, pour aller y jeter une oreille. Voilà, donc je pense pas que vous êtes venu pour parler de moi, donc on va passer tout de suite dans le vif du sujet. Regardons à quoi ressemblent ces différentes technologies, le potentiel de ces différentes technologies, avant d'en analyser les bases. Donc pour ça, en fait, j'ai choisi un ensemble de démos que je vous propose. Donc la première, ça va être finalement l'utilisation de SVG pour faire ce genre de diagrammes, vous voyez, qui peuvent être animés ou pas. Donc indépendant de la résolution, parce qu'on va voir, c'est une technologie vectorielle. Donc ça, c'est une librairie qui s'appelle D3JS, qu'on verra dans le troisième module. Il y a iCharts, qui est une librairie que j'affectionne particulièrement également, qui fait peu ou prou la même chose avec, vous voyez, un ensemble de types de graphiques sur la gauche. Là, j'ai pris des jauges, à nouveau, qui sont vectorielles, et vous pouvez imaginer dans des scénarios, que ce soit business ou jeu, peu importe, sur le type d'usage de cette technologie. Donc ça, souvent utilisé pour du charting, hein, la partie SVG, mais on peut envisager également d'autres scénarios comme des diagrammes comme celui-ci qui serait plutôt destiné au monde médical avec toujours cet intérêt particulier de pouvoir zoomer sans perte de définition à l'intérieur du diagramme. Et donc ça, on peut imaginer de la cartographie, plein de choses comme on va pouvoir le voir également là dans le deuxième module sur quand utiliser l'une ou l'autre des technologies. Alors ça, c'est la partie SVG. Sur la partie canvas, on va voir que c'est bien différent dans l'usage. On va pouvoir dessiner pixel par pixel ce que l'on veut faire. Donc typiquement, bah là j'ai cette fameuse fractale de Mandelbrot dans laquelle je vais pouvoir zoomer à l'infini et donc je vais pouvoir faire tout ça par JavaScript, écrire dans un canvas. Donc ça, c'est un usage assez classique du canvas. On a bien sûr un truc que j'affectionne particulièrement à nouveau, c'est les jeux, ce jeu de plateforme que j'ai fait. Fera d'ailleurs l'objet d'un cours spécifique MVA. Et donc ça va être pour la partie Canvas. Pour la partie Canvas 3D ou WebGL, on peut avoir ce genre de résultat intéressant où là, cette fois-ci, on va pouvoir se balader dans un environnement qui est basé sur la cartographie Bing Maps ici et de l'extrusion Open Data. C'était fait par un partenaire qui s'appelle Dotvision et utilise notre moteur WebGL. Et vous allez pouvoir avoir ce genre de scénario assez sexy, hein. Je vais pouvoir revenir au début d'une course et me balader dans un environnement très réaliste en temps réel. Je vais pouvoir faire pause à n'importe quel moment, me balader, et là c'est censé représenter une course que les gens ont fait en pleine montagne. Donc WebGL va être utile également, pas que pour les jeux vidéo comme on va le voir juste après, mais également pour des scénarios, on va dire, plus sérieux, entre guillemets, bien sûr. Alors, les jeux, notre moteur est utilisé pour faire ce genre de choses. C'est un partenariat qu'on a fait avec Ubisoft. Vous voyez les graphismes. Très beau, on peut rentrer à l'intérieur du bateau. C'est un jeu qui a été fait basé sur l'univers d'Assassin's Creed et je vous invite à y jeter un œil, c'est assez sympathique. Donc vous voyez qu'en termes de potentiel, ces technologies permettent de faire vastes choses, peuvent concurrencer assez facilement maintenant ce qu'on peut faire dans le monde natif. Au support près de ces technologies sur la version de votre navigateur, bien entendu. Et maintenant, rentrons dans le vif du sujet, comment se servir de ces technologies. Commençons par les bases. Donc l'agenda de ce cours MVA sera assez classique. On va commencer par voir les bases de ces trois technologies, hein, pour que tout le monde puisse découvrir ça sereinement. Si vous êtes déjà familier avec l'une de ces technologies, vous pouvez sauter soit dans cette vidéo qui est chapitrée directement. Par exemple, si vous ne connaissez pas WebGL, vous pouvez aller directement sur WebGL, ou alors aller sur la partie 2 où là on est expliquera comment faire le choix entre l'une de ces trois technologies. Donc, il y a plusieurs scénarios types. Des fois, il y a des scénarios de recouvrement. Et on finira, bien sûr, par quelques librairies et outillages pour vous aider, puisque vous allez voir que c'est quand même pas mal de code potentiel ou de création de XML pour SVG. Vous n'allez pas faire tout ça à la main. Il existe pléthore de librairies intéressantes et je ferai mes courses dans celles qui me paraissent le plus intéressantes. Commençons donc par les bases de ces trois technologies. Et on va commencer par vous rappeler que nous sommes dans un monde dit HTML5 et W3C. Donc, c'est les différents logos créés par le W3C pour les différentes parties de HTML5. Et là, on va partir dans la partie super sympa qui sont les 3D, les graphismes et les effets. Donc, commençons par l'ABC de SVG et commençons surtout par savoir qu'est-ce que ça veut bien pouvoir dire ces trois lettres magiques. Donc, SVG, cela veut dire Scalable Vector Graphics. Donc, la possibilité de dessiner de manière vectorielle et scalable, donc pour pouvoir se mettre à l'échelle et faire du fameux responsive design avec ce genre de technologie est quelque chose de particulièrement aisé. Donc ça permet de dessiner en 2D avec des primitives XML. Donc si vous êtes déjà développeur HTML et vous avez l'habitude de faire du HTML pour positionner des éléments sur votre page et interagir avec le DOM, vous n'allez pas être perdu avec SVG parce que c'est extrêmement proche. C'est ce qu'on appelle un mode retain, donc l'ensemble finalement de des objets que vous allez dessiner à l'écran avec ces primitives XML vont être conservés en mémoire par le navigateur. Vous allez pouvoir interagir facilement avec. Et donc on va voir que c'est bien différent du mode Canvas qu'on le verra juste derrière. L'accès à ces éléments se fait donc via le Document Object Model du navigateur. Donc vous n'allez pas être perdu, vous allez voir. Ce qui est vraiment bien avec SVG, et c'est pour ça que souvent il est malheureusement sous-exploité, je pense, c'est qu'il peut être décoré avec des attributs ARIA pour l'accessibilité. Donc on peut faire des interface facilement accessible à l'aide de SVG, ce qui est moins simple ou quasiment impossible à faire avec Canvas par exemple. Et ce qui est vraiment bien également, c'est que si vous avez des habitudes de CSS, vous allez pouvoir mélanger le CSS avec du SVG, puisqu'à nouveau, on est très très proche d'une philosophie de type élément HTML. Pour finir, pour charger du SVG, vous avez plusieurs solutions possibles. Et donc là, je vous invite. Je rentrerai plus en détail dans un article que vous pouvez aller le voir sur mon blog qui est linké dans ce cours. Donc soit vous pouvez charger un fichier au format .svg, c'est comme un .png, un .jpeg. Donc vous allez référencer une image comme ça qui est juste vectorielle par rapport à une image bitmap. Donc c'est une façon de faire. Ou vous pouvez tout simplement mettre en ligne dans un document HTML5, c'est ce qu'on va voir ensemble. Ça implique d'avoir un navigateur récent, type Internet Explorer 9 ou plus, ou un Firefox récent Chrome, pour qu'ils aient ce qu'on appelle un parseur HTML5 pour lire du SVG dans votre document. Donc regardons rapidement un exemple de code extrêmement simple. À quoi ça ressemble? Et je suis d'abord obligé de déclarer l'ouverture d'une balise SVG de la même manière que vous pourriez ouvrir un div ou une balise type input, ce genre de choses. Là, j'ouvre une balise de type SVG. Je vais indiquer la taille de la zone de dessin, là qui va faire 400 pixels de large par 200 de hauteur. Et ensuite, à l'intérieur, je vais avoir des primitives de dessin. Donc, on peut le voir ici. Donc, la première, c'est un rectangle qui va être donc rempli de rouge, qui va faire 100 par 75 dans les dimensions et que je vais décaler par rapport au coin supérieur gauche de 20 pixels vers la droite et de 20 pixels vers le bas. Le deuxième est un rectangle bleu qui fait la même taille, cette fois-ci qui va être légèrement décalé par rapport au premier, 50 pixels par rapport à la gauche et 50 pixels par rapport au haut, ce qui donne le résultat final qu'on voit sur le slide. Donc, en termes de compatibilité, faites attention si vous avez encore du vieux IE8 qui traîne dans votre système d'information ou si vous avez beaucoup de clients qui viennent encore sur votre site web, malheureusement sur IE8. Il faut savoir que ce n'est pas supporté par IE8. Il existe des librairies pour pallier à ça, on verra ça dans le troisième module. Mais maintenant, globalement, quand même, la plupart des gens, heureusement, sont au moins Internet Explorer 9. Donc, on a un très bon support à partir d'Internet Explorer 9. Vous voyez sur l'ensemble des primitives qui sont sur la gauche là. Internet Explorer 10 a apporté en plus ce qu'on appelle les filtres SVG, qui sont quand même peu utilisés dans ce que je vois moi sur le web, mais ça peut être intéressant dans certains cas particuliers, donc à voir. Firefox rajoute une compatibilité supplémentaire par rapport à Internet Explorer de ce qu'on appelle les animations déclaratives. Donc il faut savoir qu'il y a plusieurs façons de faire des animations aujourd'hui sur le web. Une des plus utilisées aujourd'hui. C'est peut-être la librairie jQuery qui va le faire par JavaScript. On peut le faire par CSS avec des transitions et des animations. Et SVG avait apporté son propre système d'animation à base d'un langage particulier qui s'appelait le Smile. Aujourd'hui, qui n'est pas supporté par Internet Explorer, supporté par Firefox et Chrome. Donc, si vous partez sur ce choix-là, sachez que ça ne tournera pas dans IE. Donc, c'est une solution que du coup j'ai tendance à ne pas recommander si vous avez des gens encore sous IE dans votre parc, et j'imagine qu'ils sont quand même nombreux. Ensuite, le W3C est en train de travailler justement à une homogénéisation de tous les systèmes d'animation, et à terme, je pense que ça va disparaître. Pour terminer, les fontes SVG, Mozilla, ni Mozilla ni Microsoft n'ont fait le choix d'implémenter ce support de fonte, puisqu'il existe un autre format de fonte qui marche très très bien. Sachez que malgré tout, c'est supporté par Chrome, Safari et Opera. Bon, passons maintenant à un petit peu de code. On va voir ça dans mon IDE. Alors moi j'utilise Visual Studio. Vous n'êtes bien sûr pas obligé d'utiliser Visual Studio pour faire les démonstrations que je vous montre. Il se trouve que moi je trouve c'est mon éditeur préféré et qu'il est bien pratique, mais vous pouvez utiliser Sublime Text, Notepad++. Les exemples de code que je vous montre ici seront téléchargeables sur ce même cours. Hein. Vous pouvez les télécharger pour aller les manipuler. Donc regardons un petit peu à quoi tout cela ressemble. Donc j'ai, comme vous voyez tout à l'heure, une balise HTML5, donc le doctype qui est positionné. J'ai éventuellement des différentes choses dans le header. Là, j'ai rien mis, c'est juste préparer un ensemble de choses pour du style ou du script. Et ensuite, j'ai ma fameuse balise SVG qui commence, où je vais lui dire, ce que j'aimerais, c'est que tu crées une zone de 1000 pixels par 1000 pixels. Et ensuite, à l'intérieur, tu vas dessiner un ensemble de primitives. Donc là, on revoit la primitive rectangle qu'on a déjà vue ensemble. Et je vous présente une autre qui fait un cercle. On donne le rayon ici de 50 pixels. Et le centre du cercle va se positionner ici en XY par rapport à nouveau en haut à gauche de notre fenêtre. Vu que je n'ai pas précisé de couleur ici pour mon cercle, il va prendre la couleur par défaut qui va être noire, sachant que du coup, mon rectangle, lui, sera bien positionné en bleu. Donc si on regarde le résultat, pas de grande surprise, on a exactement ce qu'on voit ici. On s'attendait bien à ça, un rectangle bleu avec un cercle noir par-dessus. Et donc je peux éventuellement bouger le centre du cercle ici et le mettre sur le bord, par exemple, du carré qui est juste là. Donc si je rafraîchis mon navigateur, je peux bouger comme ça. Et on peut déjà imaginer un système d'animation qui va tout simplement aller toucher ces attributs pour bouger mes différentes formes à l'écran. Donc ça, c'est la version la plus simple, hein. Donc vous pouvez récupérer ce code et vous amuser à tester différentes primitives et à voir comment cela fonctionne. Donc pour l'instant, c'est à la main. Si on veut aller bien plus loin, bien sûr, il existe des scènes bien plus élaborées, générées avec des outils, je vous rassure. Donc celle-là, c'est une que j'aime beaucoup, qui est assez jolie. Et ce que je voulais vous montrer, c'est la manière dont fonctionne le DOM là-dessus. Donc ce que vous faites, c'est que vous appuyez sur la touche F12 de votre navigateur préféré. Donc moi, je vais mettre ici la fenêtre à droite pour qu'on puisse bien voir. Et vous allez pouvoir, avec ici le sélecteur d'éléments, aller sélectionner par exemple le chapeau de la petite maison ici. Et on voit bien ici qu'il y a un polygone qui a été généré et que je suis bien en train de naviguer le DOM, puisque chacun des éléments à l'écran de type vectoriel, toute la scène est découpée en petits morceaux qui donc est reflété en mémoire dans le navigateur, dans le DOM. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que potentiellement ça va prendre énormément de mémoire, donc il faut faire attention à ne pas charger avec des scènes trop importantes. Par contre, ce qui est bien, c'est que du coup, je vais pouvoir ici à n'importe quel moment m'attacher à un des nœuds du DOM pour faire un ensemble de traitements des événements, quels qu'ils soient. Donc ça, c'est assez pratique et assez sympa à utiliser. Ce qu'on peut également noter, c'est qu'ici, j'ai une zone de texte, vous voyez, que je peux sélectionner sur un pass particulier. Et donc, ce qui est vraiment bien aussi pour des interfaces que vous feriez en vectoriel, c'est que si je fais CTRL F et que je cherche le texte, le navigateur va bien le retrouver, mais également un moteur de recherche de type Bing ou Google va pouvoir indexer le texte qui est actuellement dans votre page vectorielle. Ça veut dire quoi pour ceux qui ont galéré éventuellement à créer un contenu entièrement accessible depuis les navigateurs et bien indexé par les moteurs de recherche, c'est que lorsque vous faites du Flash ou du Silverlight, vous étiez souvent obligé de faire un site à côté de ce qu'on appelait un site shadow pour pouvoir être indexé correctement. Là, c'est natif, puisqu'en fait, la technologie est lue par n'importe quel moteur de recherche, puisqu'il est inclus dans le document HTML que vous livrez. Donc, avantage certain. Donc là, on a vu deux scénarios intéressants. On va continuer maintenant par avoir le potentiel de cette technologie lorsqu'on va la coupler à du CSS. Donc là, on a à nouveau un document de type HTML5. J'ai positionné un peu de style cette fois-ci. Le premier style va être mis à travers la classe GreenRect qui va remplir de vert la forme SVG sur laquelle on va positionner cette classe. J'utilise la pseudo-classe Hover, donc on va voir que c'est très pratique ça. C'est-à-dire que je vais passer ma souris au-dessus d'un des éléments. Automatiquement, il va changer sa couleur par jaune. Donc voilà, je positionne un peu de style. Et on va voir maintenant comment c'est utilisé. Donc j'ai une première déclaration ici de SVG où je crée un rectangle d'une certaine taille, qui est ici de 75 pixels par 75 pixels. Comme je ne précise pas de couleur, automatiquement il me donne la couleur noire sur mon rectangle. Donc je devrais avoir un premier rectangle à gauche de 75 pixels de large qui est noir. Un deuxième rectangle de 75 pixels juste à côté, cette fois-ci, qui va être vert, puisque je positionne une classe CSS sur un élément SVG qui indique que je souhaite colorier en vert. Le troisième utilisera ce qu'on appelle un style inline. Donc cette fois-ci, vous voyez, j'ai l'utilisation de la balise style classique que vous connaissez en HTML, où je force un remplissage en violet. Et pour finir, le dernier carré, lui, il va être rempli à travers un attribut, cette fois-ci SVG, avec la couleur rouge. Donc là, ce qu'on note, c'est qu'on peut mélanger vraiment vos connaissances. Soit vous connaissez déjà CSS, vous allez plutôt partir sur des classes CSS, et ça ne vous pose pas de problème. Soit vous allez plutôt utiliser des attributs SVG, mais dans ces cas-là, ça implique d'aller viser avec du code JavaScript ces éléments pour aller modifier éventuellement leurs propriétés. Vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez. Donc si on regarde le résultat, normalement, on devrait avoir un carré noir, suivi d'un carré vert, suivi d'un carré rose, suivi d'un carré rouge. Et lorsque je passe ma souris sur certains de ces éléments, il devrait devenir jaune. Donc regardons le résultat. C'est bien ce que je venais de vous décrire. Si je passe ma souris au-dessus du carré noir, il devient jaune grâce à la pseudo-classe Hover que je vous indiquais tout à l'heure. Le vert devient jaune, le rouge devient jaune. Le rose ne change pas de couleur, alors pour une raison assez simple en fait, hein, c'est que les règles CSS sont bien respectées. Comme j'ai un style inline qui est positionné ici sur ce carré, la règle est plus forte que l'application d'une pseudo-classe, donc en fait je ne peux pas écraser avec le système de cascade le comportement qui est décrit par défaut. Donc rien de surprenant, CSS continue de fonctionner tel qu'il est prévu, mélangé avec du SVG. Comment rajouter maintenant un peu d'interactivité à tout ça? Donc vous allez voir, c'est vraiment la base absolue. Je crée une zone HTML avec un H1 ici, rien de bien méchant. Et j'ai à nouveau cette zone de SVG de 200 par 200, cette fois-ci, dans lequel je vais avoir un cercle avec la couleur gold, donc qui est une sorte de jaune, sur lequel je vais pouvoir me positionner sur le onClick. Donc bien sûr, soit vous le faites comme ça à l'ancienne, soit vous pouvez faire un add event listener sur l'élément en question. Et sur ce onClick, je vais appeler la fonction JavaScript suivante qui fera un bon vieux une alerte classique qui vous indique que vous avez cliqué sur l'élément. Ce qui est vraiment intéressant de noter lorsqu'on va le voir ici, c'est que le heat testing est fait par le navigateur. Alors c'est quoi le heat testing? C'est si jamais je clique dans la zone blanche ici, qui est pourtant une zone déjà peut-être SVG, je n'ai pas d'élément qui est remonté. À partir du moment où je vais m'approcher ici du cercle et que je clique sur le bord, j'ai bien ma fonction JavaScript qui est levée, ça veut dire qu'il teste bien si vous êtes sur le bord de la forme ou pas pour vous. Tout ça c'est fait par le navigateur, vous n'avez pas besoin de calculer par exemple là où vous vous trouvez au niveau du cercle dans votre zone de dessin, c'est fait par le navigateur. Donc vraiment pratique SVG pour ça. Et ensuite, on peut bien sûr mélanger les deux approches que je viens de vous décrire. On utilise du CSS qui va remplir de jaune au survol de la souris la forme visée actuellement, donc qui est un pass ici. Donc un pass, ça permet de décrire finalement une zone plus complexe que juste un cercle, rectangle ou ce genre de primitive. Et là, j'ai un deuxième pass qui va dessiner normalement l'Alaska. Et lorsque je vais cliquer sur la forme qui est ici, je vais lui dire que je suis Hawaï. Et sur l'autre, je vais lui dire que je suis l'Alaska. Et donc si maintenant je regarde le résultat, je passe ma souris, j'ai bien une zone qui est transformée en jaune. Et lorsque je clique dessus, j'ai bien le code qui est levé auquel je m'attends. Donc, vous voyez, SVG en conclusion permet vraiment une utilisation classique de type HTML. Vous pouvez mélanger du CSS avec, utiliser vos habitudes de JavaScript d'événements attachés à un élément du DOM. Franchement, c'est vraiment assez simple de découverte. La seule difficulté étant le langage lui-même, hein, qui est peut-être nouveau forcément à base de primitive XML. Mais vous allez voir que c'est très rare de le taper soi-même, le SVG, et qu'on aura des outils ou des librairies pour nous aider à faire tout ça. Donc, on a fini l'intro à SVG. Maintenant, regardons du côté de la balise Canvas et plus particulièrement de la version 2D de Canvas. Donc Canvas a vraiment une philosophie très différente de SVG, puisqu'il faut le voir vraiment comme une surface de pixels dynamique entièrement contrôlée par JavaScript. Donc là, pour le coup, autant le navigateur travaillait pour vous sur la maintenance du modèle objet en mémoire avec SVG et pas mal de choses comme le heat testing, là, c'est vous qui êtes responsable de tout. Donc on vous donne une zone de dessin d'une certaine taille, c'est à vous de la définir, et vous dessinez dedans comme dans une bitmap dynamique, en fait, tout simplement. Donc vous avez un jeu d'API JavaScript qui vous permet finalement de dessiner dedans. Alors, ça va être des rectangles à nouveau, des lignes, des courbes de Bézier, ce genre de choses, mais vous pouvez vraiment entièrement contrôler les pixels dedans. Si vous avez envie de faire une fonction qui va faire un flou des pixels à l'intérieur à base d'équations mathématiques, vous faites ce que vous voulez, donc vous êtes entièrement libre. C'est un mode par contre vraiment différent de l'autre qui est appelé Fire and Forget, c'est-à-dire que lorsque vous avez dessiné dans le canvas, le navigateur va oublier totalement les ordres de dessin après coup. C'est à vous de maintenir une espèce de modèle objet à vous pour savoir où est-ce que vous avez dessiné sur l'écran, dans quelle orientation et quelle était la couleur des pixels pour si vous voulez faire des tests après coup. Et au niveau du DOM, c'est une boîte noire complète, c'est-à-dire que le navigateur voit ça comme un seul nœud dans le navigateur, dans le DOM, et c'est vous qui allez manipuler tout ce qui est à l'intérieur, hein, puisque c'est vraiment le principe. C'est-à-dire que ça peut poser des problèmes d'accessibilité, tout simplement, puisque aucun périphérique de lecture pourra savoir et interpréter ce que fait votre code JavaScript pour le donner à une personne malvoyante. Faites attention à ça. Donc comment ça s'utilise? Donc il faut avoir un navigateur compatible HTML5 qui implémente la balise Canvas, n'importe quel navigateur aujourd'hui là. Vous commencez par créer la balise Canvas, vous lui donnez un identifiant éventuel avec une largeur hauteur, ou alors vous pouvez le mettre en plein écran si vous le souhaitez. L'intérieur, vous voyez, c'est uniquement à destiner aux navigateurs qui ne le supportent pas, juste un petit message pour les prévenir qu'ils ne verront pas grand-chose dans leur cas. Puis ensuite, tout va se passer avec la balise script, hein, puisqu'avec un morceau de script qui va être exécuté pour manipuler cette balise canvas. Donc on va récupérer l'élément avec un getElementById, on va récupérer ce qu'on appelle un contexte de dessin. Donc là, on voit qu'on récupère le contexte 2D, il en existe deux des contextes, le 2D, et on va voir le WebGL pour faire de la 3D. Et ensuite, bah, vous allez pouvoir manipuler ce contexte finalement pour pouvoir dessiner et envoyer des ordres de dessin dans ce canvas. Donc regardons un petit peu les bases de Canvas de même manière qu'on a vu tout à l'heure les bases de SVG. Donc on va fermer tous ces documents. Et on va voir des équivalences à ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc là, ce qu'on voit, c'est qu'à nouveau, la balise HTML5 est présente avec le doctype. Là, vous voyez un ancien méta que vous pouvez d'ailleurs enlever aujourd'hui. Si vous enlevez cette balise-là, hop, Internet Explorer sera forcément dans son dernier mode avec dès l'instant que vous avez cette doctype positionnée. Donc n'oubliez pas de bien construire votre document HTML5 si vous voulez que Internet Explorer bascule bien en HTML5, sinon vous pouvez avoir des soucis. Et une fois que j'ai fait ça, eh ben, je vais avoir ma balise Canvas qui est déclarée, ici qui va faire 100 pixels par 100 pixels. Et ensuite, je vais lui dire au chargement de mon document, tu vas lancer un certain code JavaScript qui est ici, qui va faire quoi? Qui va récupérer l'élément que j'ai déclaré ici, qui va récupérer le contexte 2D de dessin. Et ensuite, qui va dire, bah, j'ai envie de changer le contexte par la possibilité de remplir n'importe quelle forme avec cette couleur-là. Donc, je vous rappelle, rouge, vert, bleu. Donc, je vais dessiner en bleu. Et ensuite, je vais remplir une forme de type rectangulaire qui va commencer en 10-10 et qui va finir en 100-100. Donc, rien de compliqué. Et donc, si je regarde le résultat, on voit bien le rectangle bleu, enfin un carré bleu en l'occurrence, qui est rempli ici. Donc maintenant, regardons l'équivalence de ce qu'on a vu tout à l'heure avec SVG, qui est assez intéressant. Donc on commence par regarder à nouveau le document pur HTML, où j'ai à nouveau mon H1, j'ai ma balise Canvas qui est ici, et je vais ensuite avoir un onclick qui est positionné comme tout à l'heure. Alors c'est un exemple, hein, un petit peu forcé pour vous montrer la différence, c'est-à-dire que là, pour pouvoir dessiner ici sur mon canvas, ce que je fais, c'est que je récupère le canvas 2D, j'ai vérifié éventuellement, ça c'est une autre technique, qu'il y a un support de l'élément getContext, ça veut dire que c'est supporté par le navigateur. Bon, aujourd'hui, vous pouvez, je pense, enlever ça sereinement, ça va marcher partout, mais c'est ce qu'on appelle du feature detection. Et si jamais la fonctionnalité est bien présente, je récupère le canvas 2D, je commence un dessin qui va être rempli de la couleur gold, donc avec 255, 215, 0 au niveau des couleurs RGB, je trace finalement un cercle et je le remplis avec la couleur. Donc ça va nous donner le même cercle qu'on a vu tout à l'heure. Et si je le regarde maintenant, alors ça il faut l'expérimenter vous-même, hein, parce que ce sera plus parlant que me le voir faire. Tout à l'heure, si je cliquais en dehors du cercle, en SVG, comme je m'étais abonné uniquement sur le clic du cercle jaune lui-même, ça ne faisait rien. Là, je me suis abonné sur la zone de canvas. Donc si je clique ici, même si je n'ai pas cliqué sur le cercle, vous voyez qu'il lève bien l'événement en disant bah, tu as cliqué sur l'élément canvas. Et donc je ne suis pas capable de différencier à haut niveau, au niveau du navigateur, si je suis en train de cliquer sur le cercle ou si je suis en train de cliquer sur le canvas lui-même. Alors le seul moyen de le savoir, c'est vous par JavaScript, de dire bah, lorsque je clique, récupérer les positions de la souris en X, Y, savoir si en X, Y, vous avez par exemple un pixel blanc, vous pouvez le tester, c'est une façon simple de le faire en disant bah, si j'ai un pixel blanc, c'est que je suis dans une zone dans laquelle je n'ai pas encore dessiné, donc je ne clique pas sur le cercle. Si j'ai un pixel jaune par exemple, c'est que je dois être dans le cercle. Alors c'est un algorithme très simple. Si on voudrait aller plus loin, il faudrait plutôt savoir sur en X, Y, qu'est-ce que j'ai dessiné la dernière fois? Est-ce que je suis bien à l'intérieur du cercle? Et si oui, dans ces cas-là, je lève le code. Vous voyez, ça nécessite plus de boulot par rapport à SVG pour ce genre de scénario. Alors, pour comprendre un peu plus les bases de Canvas, il existe un site qui est vraiment pratique, je trouve, pour apprendre ça. Qui est sur notre test drive, donc qui s'appelle le Canvas Pad. Donc je vais réduire un petit peu pour que vous voyez bien, donc ça devrait aller. Et ça vous permet vraiment, donc vous aurez également le lien vers cette URL, hein, vous pouvez la noter de toute façon sur cette vidéo. Ça vous permet de découvrir comment manipuler en live finalement le canvas. Donc là, si j'ai envie de changer la position par exemple du premier carré, je fais CTRL Enter, ça va le bouger, vous voyez. Vous pouvez éventuellement tester changement d'une couleur. Vous voyez, là, il y a une zone, ce qu'on appelle alpha, donc RGBA, donc rouge, vert, bleu et le niveau d'alpha. Bah, je peux baisser le niveau d'alpha, par exemple. Il est un peu plus transparent, donc je peux m'amuser à tester pas mal de choses. Vous pouvez découvrir des primitives ici qui permettent de dessiner des arcs, des quadratiques. Donc là, on peut s'amuser à faire. Ils ont refait le logo IE, c'est amusant. Des courbes de Bézier. On peut voir les fonctions de clipping, les différentes façons de remplir avec des gradients, avec des patterns particuliers comme base d'image. Il y a pas mal de choses qu'on peut faire. Les shadows pour voir manipuler des ombres portées sur certains éléments. Du texte, donc les différents styles que supporte la balise canvas. On peut également, et ça c'est pas mal, soit afficher une image classique, hein, PNG, JPEG, à l'intérieur du canvas, ou une vidéo. Et la façon dont ça se fait avec une vidéo, c'est assez amusant, c'est que je vais capturer frame par frame, en fait, la vidéo. Donc là, on le voit, j'essaie de le faire toutes les 16 millisecondes, à peu près 60 fois par seconde. Je vais récupérer l'image de la vidéo actuelle et je vais la redessiner dans le canvas. Alors, vous pourriez me dire, ça sert à quoi par rapport à la balise vidéo? Parce que vous allez pouvoir tout simplement la modifier, hein. Vous allez pouvoir changer la couleur, donner des transformations, appliquer des filtres dessus, entièrement par JavaScript. Et ensuite, on a bien sûr la possibilité de faire des animations, comme on peut le voir dans de nombreux jeux vidéo. Et pour finir, vous avez la possibilité, vous voyez, de suivre par exemple le curseur de la souris. Et de dessiner, et là on retombe vraiment sur ce que je vous disais tout à l'heure, c'est à vous de savoir où se trouve le curseur de la souris et d'en déduire votre logique à vous. Donc ça, c'est vraiment très bien pour apprendre. Bah, je vous incite vraiment à aller faire un tour pour si vous avez jamais manipulé la balise Canvas pour vous en servir. Moi, je voulais juste réutiliser cet exemple-là et de à la place de ce carré jaune qu'on voit ici, insérer la petite vidéo qu'on a vue tout à l'heure et sur les flèches du clavier faire tourner la vidéo sur elle-même. Donc moi, c'est il y a très longtemps, c'est une manière que j'ai utilisée pour apprendre les bases de Canvas. Donc voici voilà ce que cela donne. Donc j'ai repris l'exemple hein, sur le site. Donc regardons un peu à quoi ça ressemble. Je reprends exactement le code qu'il y avait tout à l'heure sur le site. Donc ça, c'est pratique. Vous n'avez qu'à copier-coller ce que vous étiez en train de faire. Ensuite, j'ai repris le système de dessin de la vidéo. Donc comme on le voyait tout à l'heure. Et ensuite, sur les touches du clavier, lorsque je vais aller à gauche, je vais changer une variable qui s'appelle rotation pour rajouter finalement 0,05 radians. Et inversement, je vais enlever 0,05 radian lorsque je vais les tourner vers la droite. Et à quel moment j'utilise cette notion de rotation? Ici, dans mon contexte, je fais une rotation de la valeur spécifiée. En fait, ce qui est assez intéressant, c'est que la première fois que j'ai découvert ce truc-là, donc je vais vous montrer ce que cela donne. Donc je vous invite du coup à vraiment utiliser le CanvasPass pour découvrir, et ça donnait ça. J'ai rajouté, vous voyez, de l'ombre portée. Donc j'ai essayé de mélanger plusieurs notions pour découvrir vraiment les bases de Canvas. Donc cet exemple de code, vous l'aurez également pour vous amuser. Donc là, on voit bien les transformations que je vous disais sur la vidéo. Donc ça va être des trucs jolis. Et en fait, il faut savoir que c'est une machine à état, le contexte Canvas. Donc si jamais, par exemple, je n'avais pas sauvegardé ici et restauré le contexte, voilà ce que cela va donner. Je l'ouvre. Et vous voyez que ça donne n'importe quoi en fait, puisqu'il frame par frame, il continue de décaler les différentes instructions précédentes. Alors, pour que ce soit un peu plus clair, imaginez que la première fois, il commence par dessiner un rectangle, il fait toutes les instructions, il fait la rotation telle que je lui donne, et ensuite il repart dans une boucle. Donc il recommence. Le problème de repartir dans la boucle, c'est qu'il a gardé l'état précédent que j'avais donné de rotation et de translation. Bah, du coup, il va bouger un peu plus à droite, tourner un peu plus davantage, puis la frame d'après, donc 16 millisecondes plus tard, il va recommencer, etc., etc. Donc en fait, ça veut dire qu'à chaque fois que je reviens sur ma boucle de dessin toutes les 6 millisecondes, il faut que je n'oublie pas de rétablir le contexte tel qu'il était à l'origine. C'est pour ça qu'au tout début, je sauvegarde le contexte de ma pile à état, et qu'à la fin, je le restaure pour être sûr d'avoir ma logique de boucle de dessin qui fonctionne bien. Donc maintenant, si je reviens avec cet état-là, je fais un F5, je récupère bien ça. Alors il y avait une autre technique qui consiste tout simplement à annuler finalement les translations précédentes, c'est-à-dire que je repars en arrière, je refais la rotation équivalente avant de repartir dans la boucle, mais là c'est bien plus simple de l'utiliser de cette manière-là. Donc à nouveau, j'ai des articles sur mon blog, j'ai un article sur mon blog qui explique un peu tout ça, n'hésitez pas à y faire un tour pour avoir un peu plus de détails. Donc on a fini sur la balise Canvas, et on va finir par peut-être la plus sympa, la plus moderne, la plus waouh, qui est WebGL. Donc, qu'est-ce que WebGL? Alors, c'est un peu plus difficile d'accès, hein, je vous avoue, surtout si vous voulez partir de zéro. C'est pour ça qu'il faut absolument utiliser une librairie qu'on verra en troisième partie. Mais essayons de comprendre comment fonctionne WebGL. Donc, WebGL, c'est quoi? C'est une API d'assez bas niveau qui permet tout simplement d'accéder au GPU depuis JavaScript. Et donc, la façon d'accéder au GPU, d'ailleurs, ne va pas se faire en JavaScript pur, mais qu'un langage qu'on appelle un langage de shader, qui est de type GLSL pour ceux qui connaissent, donc qui vient du monde OpenGL, sachant que dans le monde DirectX, c'est un autre langage qui s'appelle HLSL. Et pour pouvoir discuter donc avec OpenGL, finalement, le groupe Chronos, alors c'est pas géré par le W3C cette fois-ci, a créé une abstraction d'OpenGL, sur un sous-ensemble d'ailleurs d'OpenGL, pour pouvoir accéder depuis JavaScript à des instructions de dessin qui vont être géré directement par le GPU. Donc finalement, comme beaucoup de technologies graphiques 3D, hein, WebGL, ça permet tout simplement d'accélérer le rendu des triangles. Alors que ça ne fait pas rêver dit comme ça, mais c'est vraiment la base finalement de tous les moteurs 3D. Donc ça va gérer tout cette partie-là, hein, des triangles. Par contre, ça ne va pas gérer la création de vos shaders, et qui est quand même une grosse partie. Donc comment charger un shader, comment compiler un shader, comment écrire son shader. La partie géométrie va être entièrement gérée côté CPU par JavaScript. Comment gérer les textures? Donc les textures, puisqu'on est dans le web, ça va être du SVG, excusez-moi, du PNG, du JPEG, du SVG peut-être si vous faites un rendu dans un canvas, mais pas directement comme une texture au niveau du GPU. Et vous allez ensuite avoir une boucle de rendu. Donc il faut un navigateur compatible. Alors nous, ça arrive avec Internet Explorer 11 qui supporte WebGL. Chrome et Firefox l'avaient depuis un moment, et Opera étant basé sur le même moteur que Chrome aujourd'hui, Blink a bien évidemment le même niveau de support. Donc, de la même manière que tout à l'heure, vous voyez, on faisait un get context 2D pour dessiner finalement une image bitmap en 2D. Là, cette fois-ci, on va récupérer un contexte. Alors, on aura pu se dire, ils auraient pu l'appeler 3D. Non, ils l'ont appelé WebGL. Sachant que le premier WebGL, le deuxième paramètre, est-ce que vous l'activez l'anti-aliasing ou pas? Donc ça c'est une option, sinon il n'est pas activé. Et ensuite, Il y a deux façons, en fonction des navigateurs, d'activer WebGL. Soit vous prenez WebGL, ça veut dire qu'on considère que WebGL est définitivement bien supporté, terminé dans le navigateur. Soit il y aura d'autres navigateurs, d'ailleurs comme Internet Explorer aujourd'hui, où on utilise plutôt le mot-clé expérimental WebGL pour dire attention, on est encore sur quelque chose qui n'est pas tout à fait sec. Alors ça marche bien quand même en production puisqu'on commence à l'utiliser, mais c'est une indication pour dire aux développeurs, attends-toi potentiellement à revoir un peu ton code dans le futur. Donc regardons les bases de WebGL et j'ai mis tout cela pour afficher un triangle puisque vous allez voir que pour pouvoir simplement afficher un triangle tout bête, c'est pas si simple que ça. Alors, ne partez pas en courant, essayez juste de comprendre les bases et vous inquiétez pas, il existe des librairies pour vous aider à faire tout ça. Donc on va commencer par regarder la structure du document HTML, qui est à nouveau un document HTML5 pour pouvoir utiliser la balise Canvas. On va voir qu'on utilise un tout petit peu de CSS, mais rien de particulier. Et j'utilise une librairie pour faire des calculs matriciels. Alors oui, on fait de la 3D. Si vous avez fait un peu de 3D dans votre vie, vous savez sans doute que c'est à base intensivement de calculs matriciels. Pas besoin d'être un cadre pour autant en calcul matriciel. Il existe de nombreuses librairies qui font le travail pour vous. Donc là, on en utilise une qui fait le job, comme disent les Américains. Avant de regarder cette partie-là, on voit juste que j'ai une balise Canvas qui est positionnée de la même manière qu'une balise 2D. Et j'ai un morceau de script qui va aller manipuler cette balise Canvas comme d'habitude. Ce que vous voyez par contre de nouveau, ce sont deux types d'éléments. Et je remontrerai ça dans une démo assez intéressante pour découvrir les shaders. Le shader, c'est le mot-clé magique qui veut dire que c'est le morceau de code qui est envoyé au GPU pour le faire travailler. Ils sont de deux types. Le shader pixel, donc pixel shader, qui va s'occuper de remplir chacun des pixels d'un triangle particulier, hein, qu'on appelle aussi une face, un polygone, vous avez entendu ce genre de choses. Donc ça, c'est le boulot du pixel shader, ou qui s'appelle aussi le fragment shader en WebGL et OpenGL. Donc vous voyez à quoi ça ressemble. Donc là, il est extrêmement simple, hein, il ne fait rien d'autre que restituer la couleur qu'on lui a indiqué de faire, mais on pourrait imaginer ici bah, tout simplement un pixel shader qui va faire hein, l'algorithme d'eau qu'on voyait dans les mots Assassin's Creed est fait avec un pixel shader entre autres et certainement un vertex shader. Le vertex shader lui fait quoi? Le vertex est le mot scientifique en 3D pour dire un point dans l'espace et c'est plutôt sur la partie géométrique qu'on va travailler. Ça veut dire que là, il va aller potentiellement les modifier la façon dont les géométries des points sont affichées à l'écran en termes d'objets 3D. Et donc on a bien deux types de manipulations, un qui va travailler sur le look finalement de l'objet et l'autre sur sa forme. Voilà, tout simplement, si on pourrait simplifier là-dessus. Et donc on retrouve des matrices qui sont transférées là-dedans et des calculs matriciels vont se faire dedans. Donc si jamais vous avez aucune notion en 3D, ne vous inquiétez pas, on verra avec des librairies plus tard que tout ça c'est géré pour vous. Mais il faut vraiment bien comprendre malgré tout que la base de WebGL c'est ça. On vous donne accès à un nouveau langage ici qui est donc le GLSL. Et donc il n'y a rien à voir avec JavaScript, rien à voir avec HTML. Ce morceau va être pris et il va être pris par le navigateur, compilé en langage natif pour le GPU et envoyé vers le GPU. Donc à quel moment cela se fait-il? Dans la partie JavaScript. Et là, on voit pas mal de choses qui sont faites, hein. Donc ça, c'est une démo qui a été faite par David Catu, qui, à mon avis, est extrêmement intéressante, extrêmement claire pour comprendre les différentes étapes. La première étape, c'est quoi? Bah, je récupère mon élément canvas du DOM, de la même manière que j'aurais pu le faire en 2D. Je positionne sa taille si j'ai envie pour faire du plein écran. Je récupère ce fameux contexte WebGL, au lieu de récupérer le contexte 2D précédemment. Et c'est là où ça commence à pas mal de boulot, on va pas rentrer dans le détail. Mais la première étape consiste à récupérer le script du shader que je vous ai montré tout à l'heure, hein. Ici dans cette page-là, donc ça, il faut que j'aille le récupérer dans mon document HTML. Faut le récupérer, donc tester bien qu'on est dans le bon type. Et on va appeler, vous voyez, des instructions cette fois-ci WebGL pour en créer un shader de type bah, fragment shader, pixel shader ou vertex shader. Une fois que j'ai fait ça, il va falloir les compiler. Donc là, c'est la phase de compilation. Donc ça ressemble vraiment hein, à un langage type pseudo-C. Hein. C'est les mêmes instructions qu'on fait, sauf qu'on pilote finalement tout ça à travers du JavaScript. Et une fois qu'on a fait ça, il va falloir positionner des attributs, puisqu'en fait, c'est comme des morceaux de code qui prennent des choses en entrée pour en sortir d'autres choses. Donc on va positionner certains attributs. On va positionner d'autres variables particulières. Et pour finir, pour dessiner, aller en 3D, on parle d'un univers X, Y, Z, et donc il faut positionner des points. Et des points, ça s'appelle des vertices en 3D. Donc on voit le tableau de points qui est ici. Donc ici, on va juste dessiner un pauvre triangle, vous allez voir. Ça va peut-être vous déprimer, vous inquiétez pas. Et ensuite, un tableau de couleurs. Et en fait, on va laisser WebGL faire l'interpolation de ces trois couleurs pour avoir un beau dégradé. Et une fois qu'on a terminé, vous voyez, c'est quand même beaucoup de plomberie d'initialisation. Et ben, on va avoir la boucle de rendu qui est lancée, qui va finalement calculer des perspectives liées à la caméra, comme la manière où vous allez regarder la scène, qui va mettre en place un certain nombre d'attributs sur les différents shaders précédents, qui va utiliser des calculs matriciels avec la librairie dont je vous parlais tout à l'heure, et qui va tourner, et qui lance la boucle de rendu finale. Alors, tout ça pour afficher ça. Un triangle, il est matériellement accéléré et c'est la base de toute la 3D. C'est-à-dire qu'une fois que vous savez afficher un triangle en 3D, vous pouvez faire ce que vous voulez. Donc ça, peut-être que si jamais vous n'avez jamais fait de 3D, ça vous paraît horriblement complexe. Vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal. Donc on y aura l'occasion d'y revenir avec d'autres librairies. Si vous venez du monde de la 3D, vous voyez qu'en fait tout simplement les shaders que vous avez l'habitude d'écrire en OpenGL, alors c'est un sous-ensemble d'OpenGL, donc si vous avez des grosses extensions ou une version avancée d'OpenGL, ça ne va pas tourner dans WebGL forcément, mais beaucoup de shaders peuvent être repris dans WebGL. Et ensuite, si vous n'êtes pas du tout expert de la 3D, utilisez une librairie comme FreeJS ou BabylonJS qu'on verra un peu plus tard. Alors si on veut aller un cran plus loin et essayer de comprendre un peu mieux ce système de shaders, malgré tout, il y a une démo, puisqu'on parle de BabylonJS, qui est assez sympa sur notre site, qui a été créé par David pour justement découvrir le langage merveilleux des shaders. Et donc l'idée, c'est de la même manière que tout à l'heure on a vu avec le CanvasPad, la possibilité finalement de manipuler directement les différentes instructions de dessin et de le voir en live, bah là vous pouvez le voir également différents exemples. Donc là avec différentes primitives, donc là j'ai un torus node, je peux avoir un sol déformé ici, comme on peut le voir, ou tout simplement un donut classique, donc faites vos courses, donc on va reprendre celui-là, et on peut voir les différents types de shaders. Et donc en fait vous voyez bien qu'à gauche le vertex shader, pixel shader sont modifiés, donc c'est une espèce de pseudo C. On a le black and white sur une texture, on a ce qu'on appelle le cell shading, on a du fong, on a pas mal de trucs qui sont sympathiques. Et vous voyez qu'à chaque fois quand je modifie, ça modifie plutôt la partie pixel shader, qui modifie finalement la façon dont chacun des pixels doit être dessiné, puisque c'est le pixel shader entre autres qui gère cette source d'éclairage. Vous voyez, quand je bouge la caméra, on voit des reflets ici, ça va être géré par notre pixel shader. Si je veux modifier cette fois-ci la façon dont s'affiche la géométrie avec un vertex shader, il y a un shader qui est rigolo ici, qui est de déformation, le wave, et c'est plutôt dans cette partie-là qu'on voit le résultat. Et vous pouvez tout simplement vous amuser à modifier ces paramètres. Donc je sais pas, moi par exemple modifions celui-là, je vais le passer à 2. Et il me dit qu'il y a une erreur puisque je dois faire 2.0. Hop. Donc déjà ça vous permet d'apprendre à pas faire d'erreur. Et vous voyez le résultat, c'est que j'ai complètement déformé la logique qui est gérée par le shader. Donc j'ai peut-être mochifié, hein, c'est possible. Hein, quand on ne sait pas trop quoi faire, c'est souvent ce qu'on arrive. Donc je vais le remettre dans son état initial, le relancer. Et mais ça vous permet tout simplement d'apprendre en faisant des erreurs, en découvrant les différentes variables. Donc n'hésitez pas à jeter un œil, hein, c'est sur notre site babylonjs.com/cyos pour create your own shader. Et c'est vraiment très pratique pour découvrir, même si on n'est pas un cadre de la 3D comme moi, hein, pour être honnête, on s'amuse bien avec ce genre d'outils. Donc voilà, ça termine ce cours MVA. On va se retrouver dans le deuxième cours pour découvrir ensemble les différents scénarios d'usage de ces technologies. Donc là, on a vraiment vu la base. Cette fois-ci, on va dire quand est-ce qu'il y a un intérêt d'utiliser Canvas ou SVG? Quels sont les scénarios où Canvas est meilleur que SVG? Il y a des scénarios où ils peuvent se retrouver tous les deux mélangés. Pareil pour WebGL, dans quel cas on pourrait envisager de l'utiliser. Donc ça sera le deuxième module. Et dans le troisième module, on verra quelques librairies que j'aurais choisies pour vous faire gagner du temps. À bientôt!